plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU, parmi lesquels les États-Unis, la France et les Pays-Bas, indiquent que les Nations Unies sont prêtes à fournir une aide logistique à la RDC pour la tenue des élections prévues en décembre prochain. Ils se sont ainsi exprimés lundi dernier à New York au cours d'une réunion de suivi du processus électoral dans les pays. Mais Kinshasa maintient sa volonté de financer entièrement l'organisation des élections. Pour sa part, la chef de la MONUSCO a affirmé que l'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter demeure l'un des sujets de discorde majeur entre les parties prenantes aux prochaines élections. Quelle lecture faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Gilbert Mouika, il est premier coordonnateur adjoint du Centre de coordination des élections de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur Gilbert Mouika.
Bonsoir.
Christian Mwando, député national et président du parti politique UNADEF, il est aussi secrétaire général adjoint d'Ensemble pour les changements, plateforme politique de l'opposition dirigée par Moïse Katumbi. Bonsoir, honorable Christian Mwando.
Bonsoir.
Et professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plusieurs membres du Conseil de sécurité, parmi lesquels les États-Unis, la France et les Pays-Bas, indiquent que les Nations Unies sont prêtes à fournir une aide logistique à la RDC pour la tenue des élections prévues en décembre prochain. Ils se sont ainsi exprimés lundi dernier à New York au cours d'une réunion de suivi du processus électoral dans les pays. Cette aide, il faut le rappeler, n'est toujours pas la bienvenue pour les autorités congolaises qui continuent à la refuser. Et l'ambassadeur de la RDC a réaffirmé sa volonté à New York, Kinshasa. Ça maintient donc sa volonté de financer entièrement l'organisation des élections dans les pays. Pelle Kipela Mondo pour les détails.
Au cours de cette séance, l'ambassadrice américaine à l'ONU ne s'est pas empêchée de se poser beaucoup de questions touchant la logistique devant garantir la bonne tenue des élections en RDC. Est-ce qu'il y aura suffisamment de machines à voter? Est-ce que les autorités vont prolonger les votes sur des jours ou semaines supplémentaires? Est-ce qu'il est possible de recharger les machines de vote dont les batteries tiennent 12 heures? S'est demandé Nikki Haley. Elle a aussi voulu savoir si les bulletins de vote papier ont été prévus au cas où les machines à voter ne fonctionneraient pas. D'après la diplomate américaine, le fait que la CENI accepte un soutien logistique de la MONUSCO ne revient pas à empiéter sur la souveraineté de la RDC. Toujours selon elle, en refusant cette aide, la RDC gaspille des ressources précieuses à se doter des capacités mises à sa disposition. En réaction, l'ambassadeur de la RDC à l'ONU a indiqué, je cite, « Les résultats obtenus jusqu'ici par la CENI doivent nous inciter à faire confiance à cette institution et à la laisser poursuivre sa mission jusqu'au bout en évitant d'interférer dans son travail par des considérations qui relèvent beaucoup plus de la spéculation que de la réalité. » Fin des citations. Pour Ignace Katamavita, la RDC reste ouverte aux apports d'autres partenaires pourvu que ceux-ci soient sans conditionnalité et se fassent dans le respect de sa souveraineté. Le respect du calendrier électoral est indispensable, a affirmé pour sa part l'ambassadrice française adjointe à l'ONU. Anne Guéguen a réaffirmé la disponibilité de la MONUSCO à fournir un appui logistique à la tenue d'élections libres, crédibles, transparentes et inclusives en RDC. Elle a appelé à l'instauration d'un climat de confiance et pacifique pour la tenue de ces scrutins.
Merci à vous, Pelle Kipela Mondo. Intervenant depuis Kinshasa à cette réunion par vidéoconférence, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a indiqué qu'en dépit des progrès tangibles enregistrés en RDC, le niveau de confiance doit encore être consolidé. Leila Zerougui a plaidé pour le maintien d'un dialogue permanent entre différentes parties prenantes au processus électoral, tout en appelant les autorités congolaises à garantir la tenue paisible et crédible des élections et une transition pacifique du pouvoir, ce qui, ajoute la chef de la MONUSCO, serait une première dans l'histoire de ce pays. On suit cet extrait de son discours devant le Conseil de sécurité.
L'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter et la non-publication de la liste définitive du fichier électoral demeurent également deux sujets de discorde majeurs entre les différentes parties prenantes. Je ne peux qu'encourager ces mêmes parties à s'appuyer sur la démarche constructive qui a été la leur lors de la période de dépôt des candidatures afin de poursuivre le dialogue sur ces questions et aplanir leurs divergences. Je reste bien évidemment déterminée à poursuivre ma mission de bons offices afin de trouver des solutions qui permettent d'instaurer un climat de confiance nécessaire à la tenue d'élections apaisées et inclusives. C'est dans ce contexte, Madame la Présidente, que je réitère mon appel à toutes les parties prenantes, notamment aux autorités congolaises, à faire en sorte que les élections du 23 décembre prochain soient crédibles et paisibles en vue de permettre la première transition pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo, qui constitue une étape essentielle sur la voie de la stabilité et du développement du pays.
Gilbert Mouika, premier coordonnateur adjoint du Centre de coordination des élections de la majorité présidentielle. Comment vous réagissez à cette offre des Nations Unies qui se disent prêtes à accorder une aide logistique à la RDC pour les prochaines élections?
Bien, à moins que vous ayez une lecture particulière, mais moi j'estime que pour aider quelqu'un, il faut d'abord évaluer le besoin. Il faut que la personne exprime le besoin. Kinshasa, à ce que je sache, dit qu'elle va financer entièrement les élections du 23 décembre 2018. Je pense que les évaluations ont été faites et jusque-là, peut-être qu'il n'y a pas encore de gap pour recourir à l'extérieur. Donc, je ne voudrais pas, moi ici, évidemment, m'engager dans une polémique, mais je crois que c'est un comportement qui me rappelle ce que nous avions lu dans les livres de latin quand on était encore aux humanités. Kinshasa ne veut pas se comporter comme les Romains à l'époque. Ils mangeaient pour boire, ils vomissaient pour manger et mangeaient pour vomir. Donc c'est peut-être cela et c'est une attitude tout à fait compréhensible. On évite peut-être les excès de table et laisser Kinshasa organiser ses élections. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça doit être une matière à discussion. Voilà.
Mais pourquoi la RDC maintient mordicus son refus vis-à-vis de cette assistance des partenaires extérieurs?
Mais je viens de vous dire.
Oui, l'assistance que la RDC n'a jamais refusée en 2006 et en 2011.
Oui, mais maintenant, Kinshasa estime que bon, il n'y a pas lieu à recourir aux partenaires extérieurs parce que nous avons suffisamment de moyens pour organiser les élections. Certainement, c'est cela. Il ne faut pas prêter des intentions à Kinshasa.
Nous avons suffisamment de moyens dans un pays où la moitié de la population vit sous, plus de la moitié plutôt de la population vit sous les seuils de la pauvreté, où les voies de communication posent problème, il n'y a pas assez de routes, les peu de routes qui sont là ne sont pas praticables, où les fonctionnaires ont du mal à avoir leur salaire de façon régulière à la fin du mois. Vous dites que Kinshasa a assez de moyens.
Mais du moins, nous ne sommes pas un État voyou, nous ne sommes pas en concurrence avec un autre État. Les évaluations ont été faites. Nous parlons ici des élections. Sur le plan d'organisation des élections, Kinshasa estime qu'il n'y a pas lieu de recourir à l'extérieur. Donc, on a constaté peut-être dans l'organisation qu'il n'y a pas gap à ces niveaux. Alors, pourquoi vous voulez insister que Kinshasa aille voir les États européens, parce que ce sont les Européens pour la plupart qui réclament ça? Et puis, je crois que pour qu'un infirmier vienne vous proposer un médicament, il faut que vous soyez malade.
Et la RDC n'est pas malade.
En tout cas, sur le plan d'organisation des élections, jusque-là, on n'est pas malade. Si on était malade, on serait allé vers l'infirmier ou à l'infirmerie pour poser le problème.
Voilà. Et je sais que vous n'êtes pas les porte-parole de M. Ignace Gata, qui est le représentant de la RDC aux Nations Unies. Mais qu'est-ce qu'il insinue quand il dit que les pays restent ouverts aux apports d'autres partenaires, pourvu que ceci soit sans conditionnalité et s'efface dans le respect de sa souveraineté?
Permettez que je me limite à ce que Kinshasa dit, et vous l'avez repris vous l'avez repris tout à l'heure. Kinshasa maintient sa volonté de financer entièrement l'organisation des élections. Et je profite de l'occasion également pour vous dire que tout au long peut-être de l'émission, j'aimerais être épargné de citer les noms des gens. Donc s'il y a des questions sur des individus, permettez que je ne revienne pas sur cela.
Alors il y a une certaine opinion qui pense que dans les chefs de gouvernement, il y aurait l'intention, n'est-ce pas, de cacher certaines vérités. C'est pourquoi le gouvernement refuserait cette aide des partenaires extérieurs.
Mais cacher quoi? Parce qu'il y aurait des observateurs, parce qu'il y aurait des témoins. Les gens vont nous suivre, il y aura la presse. Cacher quoi? Aujourd'hui, si vous allez à la CENI, vous allez trouver des experts internationaux qui sont là-bas. Il y a des gens de la SADC qui sont là-bas. Il y a des gens de l'Union européenne qui sont là-bas. Il y a un accompagnement. Je crois que vous savez ce que ça veut dire le PTF, le partenaire technique et financier. Ils sont là-bas. Ils travaillent avec les experts de la CENI. On va cacher quoi?
Alors, vous allez réagir à ces propos de Mme Nikki Haley qui disait nous respectons la RDC en tant qu'État membre souverain des Nations Unies, mais cela ne peut qu'éveiller des soupçons lorsque le gouvernement congolais refuse l'aide qui aiderait à faire d'élections libres, équitables et crédibles une réalité, tout en continuant à accepter l'aide humanitaire que beaucoup d'entre nous continuent de lui donner.
Je crois que pour aller aux élections, il y a d'abord un budget. Il y a d'abord un budget, on estime le besoin, on fait les calculs, on voit quelle est la hauteur du montant qu'il faut engager pour les élections. Cela a été fait.
Vous pensez que ce budget est constitué?
J'insiste.
Ce budget a déjà été constitué?
Mais si le budget, n'était pas constitué, si le budget n'était pas constitué, je vous ai dit que s'il y avait un gap, il n'y a pas de honte à l'écouler à l'extérieur parce que nous tenons absolument ce qui est élection. Et quand vous parlez de Nikki Haley, tout à l'heure je vous ai dit que je ne voudrais pas revenir sur les noms des gens, mais pourquoi chaque fois qu'un haut fonctionnaire américain ou européen éternue, on doit s'enrhumer en République démocratique du Congo? C'est un non-sens. Il exprime un point de vue qui est son point de vue, c'est tout à fait normal. Nous également, de temps en temps, nous exprimons des points de vue sur des gouvernements étrangers, mais ce n'est pas pour autant que les gens se meuvent dans ces différents pays.
Et tout en reconnaissant les progrès enregistrés dans les processus électoraux en RDC, la patronne de la MONUSCO estime que l'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter demeure l'un des sujets de discorde majeurs entre les parties prenantes aux prochaines élections. Est-ce que vous partagez cet avis de Mme Zerougui?
Mais non, pas du tout, évidemment. Je ne sais pas de quoi elle veut parler exactement, parce que peut-être qu'elle... Bon, excusez-moi de le dire ainsi. Peut-être qu'il y a une... petite distance qu'elle devait constater entre unanimité et consensus. Il n'y a pas de confusion possible. Quand on parle de consensus, c'est quand c'est plusieurs qui s'engagent par rapport au sujet. Et quand on parle de l'unanimité, c'est tout le monde qui doit accepter. Et je crois que s'il faut évaluer les consensus par rapport à tout ce qui a été dit entre partenaires politiques dans notre pays, vous allez voir que la majorité... et dans le processus tel que il évolue maintenant. Donc, Madame est libre de dire ce qu'elle dit, mais moi j'ai dit, il faut qu'on aide également la société congolaise à être calme avant les élections et ne pas venir avec ce genre de considérations. Machine à voter. Je crois que la CENI est dans une campagne d'expérimentation de cette machine à travers le pays. Jamais je n'ai entendu dans le Katanga, dans le Bandundu, dans le Kasaï, un peu partout, un groupe de gens après l'expérimentation dire que ils veulent pas de la machine à voter. Donc ça c'est dans les têtes de certains individus en mal peut-être de positionnement ou qui cherchent une certaine popularité qui reviennent sur la machine à voter. Je ne veux pas revenir ici sur les raisons économiques qui ont amené la CENI à procéder comme telle, donc à nous amener cette nouvelle technologie, la machine à voter. Tout le monde a crié ici lorsque les chiffres présentés étaient mirobolants par rapport aux élections, mais quand on doit déjà minorer, gagner 400 millions de dollars, je crois que c'est déjà beaucoup. Vous avez parlé des routes qui n'existent pas, il faudra trouver d'autres moyens peut-être pour transporter le matériel électoral. Avec le 400 millions, ça peut évidemment nous aider.
Merci Christian Mwando, député national et président du parti politique UNADEF. Vous êtes aussi secrétaire général adjoint d'Ensemble pour les changements, plateforme politique de l'opposition dirigée par Moïse Katumbi. Et comment vous réagissez à cette offre de la communauté internationale qui réitère, n'est-ce pas, sa disponibilité à accorder une assistance logistique à la RDC pour les élections de décembre prochain?
Je pense que la logique aurait voulu que le gouvernement, s'il était de bonne foi, puisse accepter cette aide-là. Mais nous ne cesserons jamais de le répéter, que le fait pour le gouvernement de refuser cette assistance extérieure, qui pourtant il accepte pour les interventions humanitaires, n'a qu'un seul objectif. C'est de fermer la porte à la communauté internationale et pouvoir tricher à huis clos. Je refuse que vous m'aidiez, que vous m'assistiez. Ne me posez aucune question sur ce que je suis en train de faire dans mon poulailler. Parce que le fonds contre le Congo, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, c'est quelqu'un qui a dit ça, n'a qu'un seul objectif, et il considère le Congo comme son poulailler. Il veut tricher, il ne veut pas qu'on pose la question ou des questions sur la manière dont est conduit le processus électoral. N'oubliez pas que lorsque l'accord de la CIA Sylvestre a été conclu, il y avait un équilibre interne qui était établi où le gouvernement devait être géré entre la majorité et l'opposition. La CENI devait être restructurée. Jusqu'à aujourd'hui, on a refusé que le rapporteur parte. Il y avait toute une série de mesures qui assuraient un équilibre. Aujourd'hui, le gouvernement est monocolore. La Cour constitutionnelle est monocolore. La CENI est monocolore. Il n'y a que la communauté internationale qui constitue une garantie pour l'opposition qui ne fait plus partie de toutes ces institutions. Donc, pour le pouvoir en place, il est question d'exclure la communauté internationale. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de pouvoir refuser l'assistance de la communauté internationale. Parce que, n'oubliez pas que si la communauté internationale participe, elle a un droit de regard sur ce qu'il se fait, et c'est ce que le gouvernement ne veut pas, parce que le gouvernement et la CENI veulent tricher à huis clos.
Donc pour vous, l'objectif, n'est-ce pas, de ces refus du gouvernement congolais, c'est de fermer la porte à la communauté internationale et vouloir, n'est-ce pas, faire les choses à huis clos. Mais au-delà de tout cela, est-ce que le gouvernement congolais n'a pas raison lorsque il s'est dit, n'est-ce pas, ouvert aux apports d'autres partenaires, mais que cela s'efface sans conditionnalité et dans le respect de sa souveraineté?
Oui, la communauté internationale ne peut pas accepter qu'on finance des élections, qu'on participe au financement de certaines élections, mais qu'on bloque tout l'espace politique. Donc, la manière dont les choses se font aujourd'hui, vous savez que nous, les opposants, on n'a pas le droit de tenir des meetings, on n'a pas le droit de faire des manifestations, on n'a droit à rien, alors que un seul camp s'octroie tous ses droits. On n'a pas même droit de poser nos candidatures. On doit être jugé. La CENI se transforme en cour constitutionnelle pour exclure des candidats sur des matières qui appartiennent au jugement. On refuse à Moïse Katumbi de rentrer. Si la communauté internationale avait un financement dedans, elle ne peut pas financer ce genre d'élection. Ici, on veut aller aux élections, mais on ne veut pas le regard extérieur, on ne veut pas la transparence. N'oubliez pas, et je le répète encore, il y a 2 ans, on avait un budget de 8 milliards de dollars. Et tout le monde nous a déclaré ici que la République démocratique du Congo n'avait pas assez d'argent pour organiser les élections avec un budget de 8 milliards de dollars. Aujourd'hui, la RDC a un budget de 4 milliards de dollars. Et brusquement, on ne veut plus de l'aide extérieure, on veut organiser les élections tout seul. Ça veut dire quoi? Démonstration par l'absurde. Joseph Kabila a bloqué sciemment les élections parce que comme il peut organiser les élections avec 4 milliards de dollars, il pouvait bien les organiser avec 8 milliards de dollars. Ceci ne concourt que à l'opacité du processus électoral et donc la décision qui a été prise, c'est une décision pour lutter contre la transparence des élections.
Et donc, dire, comme l'a dit M. Mouika, qu'il y a l'argent pour les élections, c'est juste un prétexte.
C'est juste un prétexte. Cet argent est venu d'où? Pendant 5 ans, on n'a pas su préparer ces élections. On est en débordement de 2 ans. 2 ans au-delà du délai. Le président Kabila a fait 7 ans au lieu de faire 5 ans. N'oublions pas cela. Et là, le motif essentiel, c'était le manque d'argent. Aujourd'hui, la communauté internationale est prête à nous aider et nous disons que nous sommes prêts à assumer. Et je vais vous donner juste un petit exemple. On a parlé d'acheter 130 camions, 195 pick-up, 9 hélicoptères et autres. Je vous dis, dans un pays comme la RDC, 130 camions, ça veut dire 5 camions par province. Et vous avez en RDC 201 circonscriptions électorales au niveau provincial. Donc, il n'y aura aucune circonscription électorale qui aura un camion. Vers quelles élections nous amène-t-on? Alors que la communauté internationale a déjà toute la logistique avec la MONUSCO qui est là depuis plus ou moins 15 ans et qui a toute la logistique sur place. Pourquoi gaspiller les ressources de la République avec des achats qui vont aller au-delà de 100 millions et que avec une population qui souffre sur le terrain et ne pas profiter de la logistique qui existe déjà, économiser cet argent et aider la population. Nous sommes devant des gens qui n'aiment pas notre peuple et qui, par orgueil, par esprit de tricherie, essayent de bloquer la porte au regard extérieur.
Professeur Félicien Kabamba, professeur à la Faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Votre analyse sur cette volonté affichée des Nations Unies de vouloir fournir une aide logistique à la RDC pour les prochaines élections.
En 2006, le gouvernement de la République démocratique du Congo a tendu la main à la communauté internationale pour obtenir de l'aide afin de financer le processus électoral. Plusieurs centaines de millions de dollars ont été obtenus. Et la MONUSCO avait en 2006 joué un rôle important dans l'organisation des élections, tant sur le plan de la logistique que sur le plan technique et matériel. Alors, en 2006, la mission des Nations Unies, la MONUSCO, a même été qualifiée d'une mission modèle. Le résultat était là. La pacification du pays, la réunification du pays, les élections présidentielles, législatives tenues, les élections provinciales. Et donc, vous avez là une mission qui était présentée comme un modèle à suivre. Nous passons de 2006 en 2011 et on assiste à un changement de paradigme. Déjà en 2011, le gouvernement demande le départ de la MONUSCO. Et là, on est au niveau des Nations Unies. Alors, nombreux observateurs trouveront, en fait, que la présence des Nations Unies au moment des élections constitue véritablement un goulot d'étranglement. C'est une réalité politique qui n'est pas généralement appréciée par le gouvernement africain, et pas seulement congolais. Et donc...
La MONUSCO, un témoin gênant?
Bien, la MONUSCO est un acteur, ce sont les Nations Unies, un acteur doté de moyens financiers, matériels, humains, extrêmement importants, et donc qui peut jouer un rôle très important dans l'organisation des élections, mais aussi dans l'issue des élections. Et donc, point de vue, ils disent que un tel acteur, la présence d'un tel acteur sur le terrain peut orienter les choses d'une manière inattendue. Et donc, voilà. C'est ce qui fait que dans la plupart des cas, et il ne s'agit pas seulement lisez la plupart d'auteurs, vous allez voir que cette justification revient de temps en temps. Et en 2016, vous avez un renouvellement par le gouvernement congolais de cette demande qui avait déjà été formulée en 2011, de part de la MONUSCO. Mais évidemment, le ministre des Affaires intérieures va parler d'un départ planifié de la MONUSCO en 2020. Donc il faut absolument, d'ici 2020, la MONUSCO plie bagage. Alors, actuellement, ce qui est demandé, ce qu'il faut qu'il y ait, c'est ça évidemment la demande de la plupart des pays de la communauté internationale, c'est qu'on demande que le gouvernement congolais accepte cette aide logistique qui est véritablement une aide de la MONUSCO. Et on a vu l'impact de cette aide en 2006, mais aussi en 2011. Tant il est vrai que la MONUSCO a d'importants moyens, surtout de moyens aériens qui ont permis l'acheminement de matériel. Et on assiste actuellement à une sorte de radicalisation de la position du gouvernement, parce que si en 2006, en 2011, ils avaient accepté l'aide matérielle et donc logistique, actuellement, vous avez une radicalisation de la position qui se manifeste par un certain nombre de faits. Regardez, il y a Kinshasa qui il a carrément rejeté la nomination de Thabo Mbeki comme envoyé spécial. Vous avez une visite du secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui avait été jugée inopportune. Vous avez le refus du gouvernement congolais qui a carrément rejeté de participer à la conférence donateur. Vous avez là, véritablement, la manifestation d'une volonté souverainiste très forte. Alors, quand on parle d'une volonté souverainiste, on s'attendait bien à voir le gouvernement construire un consensus autour de ces différentes positions avec l'ensemble de la classe politique. Alors, ce qui n'est pas véritablement le cas aujourd'hui, si bien que cette souveraineté semble être uniquement une volonté du gouvernement, alors que cette souveraineté aurait pu être plus forte si elle traduisait la volonté de la grande majorité de la classe politique, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce qui est peut-être demandé au gouvernement, c'est OK, vous voulez afficher une souveraineté nationale, mais essayez en interne de pouvoir construire un consensus plus large avec, sur des questions de souveraineté avec la classe politique, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui rend un tout petit peu l'entendement de la souveraineté un peu ambivalente de la part du gouvernement.
Alors, comment vous réagissez à l'analyse de l'honorable Christian Mwando, qui estime que l'attitude du gouvernement congolais peut être comprise comme, n'est-ce pas, une volonté de vouloir faire les choses dans l'opacité?
Bon, je n'utiliserai pas le concept opacité, mais je crois que le gouvernement s'est dit qu'il s'agit là, pas d'une élection de 2006, encore moins celle de 2011. Cette élection est d'un enjeu très important. Et pour le gouvernement, il n'est pas question de laisser les Nations Unies, la MONUSCO en particulier, jouer un rôle très important dans le déroulement des élections, encore moins une présence très importante de la MONUSCO sur les terrains des élections. Il faut, étant donné que nous avons là affaire aux élections dont l'issue va véritablement déterminer, si vous voulez, l'avenir sécuritaire, mais aussi l'avenir politique du régime actuel. Et donc, il ne s'agit pas d'une élection de 2006 ou de 2011. Il faut véritablement être très regardant sur ces scrutins, étant donné son enjeu.
Et donc, l'enjeu est beaucoup plus important qu'en 2006 et 2011.
Il me semble.
Monsieur Gilbert Mouika, il y a une réaction à laquelle vous allez, en fait une réflexion à laquelle vous allez réagir, et bien des Isangi.
Peter Wenda, depuis Isangi dans la province de la Tchopo, la position prise par Kinshasa est une forte barrière que le régime à place est en train d'ériger pour empêcher les poursuites de la communauté internationale après ces élections, sachant que la tricherie a déjà été programmée par la fameuse machine à voter. Ainsi, financer seules les élections ne signifie pas organiser des bonnes élections, moins encore la démocratie, car les bonnes élections sont synonyme de la crédibilité, la transparence, la confiance, les consensus, le climat politique apaisé et la sécurité du territoire national. Nous restons jusqu'à preuve du contraire pessimistes face à la position du gouvernement, car si nous regardons au jour d'aujourd'hui, dans quelques mois qui nous séparent aux échéances électorales, le gouvernement n'a pas encore décaissé même la moitié du budget global pour l'organisation de ces élections. Alors, quand est-ce que le gouvernement décaissera la totalité du budget et d'où viendra cet argent, car on sait que le budget de l'État est modique?
Oui, M. Gilbert Mouika, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'argent pour les élections.
Rapidement, je vais dire, à mon ami Deissangi, moi j'ai travaillé à Lokoutou, je connais assez bien le coin. Je vais dire à mon ami Deissangi que ça c'est un discours pratiquement qu'on lui a mis dans la bouche. Et dire que c'est une façon pour le gouvernement d'empêcher les poursuites de la communauté internationale. Poursuites en quoi? On va poursuivre les autorités congolaises en quoi? Qu'ont-elles fait pour être poursuivies? Je vous dis que la communauté internationale est très impliquée dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire. Elle est là, elle travaille avec les experts de la CENI. Et au jour des élections, il y aura des observateurs qui viendront de partout. Tous les pays, je crois qu'il y aura accréditation des observateurs. Ils arriveront, ce n'est pas une élection fermée. Et je profite de l'occasion pour revenir légèrement sur ce que le ministre Christian a dit tout à l'heure. Il est en train de supplier le gouvernement. Pour moi, c'est mon ami d'abord, c'est mon collègue
à la Marsaf. Ministre honoraire, oui.
Même en France, les anciens présidents, on les appelle toujours président. Je préfère l'identifier en tant que ministre, surtout qu'il a occupé un poste important. Alors, il est en train de supplier le gouvernement à pouvoir accepter cette aide proposée par la communauté internationale. Et il dit, je crois que quand vous dites non, il doit accepter. Je crois que vous voulez amener absolument le gouvernement à accepter cette aide-là. Mais vous avez également soulevé le fait que pourquoi on accepte l'aide humanitaire et on refuse l'aide pour la logistique électorale. Et moi, je vais vous dire tout de suite que ce que Gata a dit aux Nations Unies, c'est justifié. L'aide humanitaire vient sans conditionnalité. Pendant que l'aide pour les élections, qui est un domaine hautement qui relève de la souveraineté nationale, donc nous ne pouvons pas accepter, évidemment, d'être derrière, parce que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et aujourd'hui, Kinshasa, je le répète, dit que les moyens sont réunis. Même mon ami qui dit que non, le budget jusque-là, c'est encore déficitaire et consort. Je ne sais pas s'il avait un plan de décaissement tel que signé entre le gouvernement et la CENI. Mais jusque-là, les rapports qui nous parviennent de la CENI nous indiquent qu'il n'y a pas de souci, on est en train d'évoluer. Et dernièrement, encore au Zimbabwe, le chef de l'État a dit clairement, il a répété que le 23 décembre 2018, nous serons dans le bureau de vote pour voter.
Alors, l'attitude du ministre Christian m'inquiète un peu. Pourtant, l'OPEP, de la dépense publique, dit que sur 88 millions de dollars dont doit bénéficier la CENI par trimestre dans le cadre du financement du processus électoral, seule une moyenne de 12% tombe dans les caisses de la centrale électorale.
Il peut y avoir un petit retard peut-être dans le décaissement, mais du moins jusque-là, les rapports que nous avons nous consolident dans ce que nous disons. L'argent est de temps en temps versé à la CENI et jusque-là, les autorités du pays nous disent que le 23 décembre, il y aura élection. Faisons confiance quand même, ne fût-ce que ça, à nos autorités. Donc, l'attitude du ministre Christian tout à l'heure m'inquiète. Ça m'inquiète. J'ai l'impression que l'opposition voudrait arriver au pouvoir pour faire dépendre davantage la République démocratique du Congo à l'aide extérieure. Donc, le Congo ne pourra jamais, alors au grand jamais, être de temps en temps un pays extraverti. Ce n'est pas pour dire qu'on s'enferme. On ne voudrait pas de l'aide extérieure. Ça, ce n'est pas l'attitude des autorités congolaises.
Monsieur Jobé Amouika, sans pour autant vous couper, vous avez évoqué la conditionnalité, n'est-ce pas? Quelle est cette conditionnalité qui a été posée en 2006 lorsque vous avez accepté l'aide de la communauté internationale, une conditionnalité que vous serez en train de redouter actuellement?
Mais cette conditionnalité s'exprime d'ailleurs par les attitudes des différents dirigeants. Tout à l'heure, vous avez évoqué Nikki Haley, qui se permet comme ça d'intervenir dans les questions congolaises et de donner son point de vue, qui n'est même pas le point de vue de l'administration américaine. Vous comprenez? Donc, entre nous soit dit, cette façon de nous regarder avec dédain, c'est entre autres dû à ce genre d'intervention. Pour une question de souveraineté, ce sont les autres qui doivent nous aider, mais cette fois-ci, le Congo dit non. Ça, c'est l'orgueil national. Je ne voudrais pas de l'aide qui viendrait de je ne sais pas où. J'ai déjà préparé les élections, mon budget il est là et je suis en train d'avancer cas un cas pour que le 23 décembre nous puissions organiser les élections.
Vous avez suivi le professeur Félicien
Kamanga. Oui, lui également il m'inquiète.
Est-ce qu'on peut parler, de la souveraineté là où il y a déficit et de consensus?
Mais je ne sais pas, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être une confusion. Hein. On cherche à faire un rapprochement entre consensus et unanimité. Consensus, c'est la règle de plusieurs. Mais l'unanimité, c'est tout le monde qui doit accepter. Ça, je le dis. Il est professeur d'université, je crois qu'il ne me contredira pas par rapport à cela. Mais là où ça m'inquiète dans son intervention, c'est lorsqu'il dit que la présidente des Nations Unies risque de constituer un goulot d'étranglement. Un peu ce que le ministre a dit tout à l'heure, hein, sur le fait que bon, on voudrait des élections à huis clos pour permettre la tricherie à grande échelle. Mais c'est grave. Je dis, je répète, que la CENI, qui est l'organe électoral de la République démocratique du Congo, est ouverte à toutes les sollicitations possibles. La preuve, c'est que le travail qui se fait à la CENI, c'est avec l'assistance de la communauté internationale.
Merci.
Donc, les observateurs viendront le moment venu. Tout le monde sera là, même les radios étrangères, dont la presse sera là. Je ne vois pas en quoi ou comment la CENI va-t-elle se comporter pour cacher.
Merci, monsieur Gilbert Mouika. Merci, nous allons vous redonner la parole. Honorable Christian Mwando, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Maniema.
Thomas, il est David depuis la province du Maniema. Si Kinshasa dit qu'il est prêt à organiser les élections avec ses propres moyens, les autres n'ont qu'à se taire et suivre la scène comme observateur et suivre la scène. Si tu veux aider un ventre affamé avec manger et celui-ci te dit qu'il est rassasié, que va-t-il faire de laisser les fossés? On n'a plus besoin de la politique de colonisation. Ils veulent tout simplement nous imposer les candidats cachés au cours des élections. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Et la preuve est que le calendrier du procès électoral est respecté jusqu'aujourd'hui à tous ces étapes.
Oui, honorable Christian Mwando.
Voilà, donc je pense que je voudrais répondre à notre invité pour dire que il dit que Kinshasa est prêt à financer seul ces élections et il faut les laisser faire. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, moi je suis membre du Parlement. Aucun jour, le président de l'Assemblée nationale n'a permis, malgré toutes les demandes formulées, que la CENI vienne rendre compte de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Et je suis content que Gilbert ait parlé ici du plan de décaissement que lui-même est seul à connaître. Moi, en tant que député, personne ne m'a dit quel était jusqu'ici le plan de décaissement et quel est le niveau d'exécution. Les questions sont déjà posées et le président de l'Assemblée nationale, qui est dans le jeu, évidemment, avec la CENI, qui est un organe de FCC, bloque tout ce qui est contrôle. Et la CENI ne nous dit pas la vérité. Les organisations de droits de l'homme parlent aujourd'hui autour de 30% du décaissement à plus ou moins 100 jours de la date des élections. On parle ici de souveraineté. Mais laissez-moi rire, messieurs. Un gouvernement qui est incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens et qui voit les tueries tous les jours, on en est aujourd'hui à se tuer à la machette dans certaines parties des provinces, incapable de nourrir décemment ses citoyens. Vous savez que la malnutrition sévère touche plus de 5 millions des enfants et de nos concitoyens dans les pays. Incapable de respecter les droits de l'homme, nous parle de souveraineté, je crois, un peu de modestie. Aujourd'hui, on n'a su rien faire pour le pays. On se retrouve à se vanter de vouloir acheter 9 hélicoptères alors qu'on aurait pu faire l'économie de cet argent pour aider nos populations. Ici, les signes extérieurs de la volonté de tricher sont clairs. Aujourd'hui, est-ce que Monsieur Mouika peut nous dire dans quel pays au monde cette machine à voter qu'on tient absolument à nous imposer a déjà utilisé? C'est une invention de M. Nanga et qui sera utilisée pour la première fois au monde en République démocratique du Congo dans une élection majeure. Il s'agit d'une tentative de tricherie. Cette machine a été rejetée en Argentine et les rapports sont là. Et lui, en tant que responsable de ces choses-là, il en sait plus que moi. Il faut également dire les exclusions que nous avons, le manque de décrispation, les 10 millions de fictifs. Qu'est-ce que on n'a pas fait pour demander à la CENI de... Un quart des électeurs ne sont pas identifiés correctement. Voilà tout ce que le FCC et sa branche technique qui est la CENI essayent de cacher. Que cache le remaniement rapide et à la hâte de la Cour constitutionnelle pour y mettre des caciques de FCC? Que cache tout ça? Je pense que tout ça cache une tricherie. Et vous verrez très bien que la manière dont les choses sont conduites, l'absence de l'ouverture de l'espace public, de l'espace de liberté, sont autant de choses qui cachent la volonté de tricher. Et le fait tout simplement de dire « nous, laissez-nous tricher en paix, laissez-nous faire n'importe quelles élections », c'est ça qui conduit à dire « non, si ces gens nous donnent quelque chose, s'ils nous assistent, ils vont devoir nous demander qu'est-ce que nous faisons parce que eux ne peuvent pas financer, ils peuvent pas assister au financement de n'importe quelles élections ». Il y a des évaluations périodiques qui devront se faire et c'est ça que Nanga et le FCC veulent nous cacher aujourd'hui. Tout simplement.
Merci.
Ça.
58 ans pour
merci, professeur Félicien Kabamba.
Mais vous avez 15 000 personnes sur le terrain.
Monsieur Mouando, s'il vous plaît. Professeur Félicien Kabamba, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Gustave Yalobari, depuis Kisangani, province de la Tchopo. Je salue la détermination de vouloir aider la RDC pour la réussite du processus électoral. S'agissant de la position du gouvernement congolais, je note personnellement deux choses. D'abord, financer totalement les élections sera une chose du positif dans la mesure où ça permettra à l'État congolais d'échapper sa souveraineté, considérée comme symbole de la dignité du peuple congolais. Néanmoins, refuser l'aide des paternels et traditionnels en voulant financer à 100% les élections sera vu aux yeux de l'opposition et de la communauté internationale comme l'expression du gouvernement congolais de vouloir garder le contrôle absolu de la CENI et de tout le processus électoral. Ainsi, le gouvernement congolais doit accepter sa complaisance, l'aide logistique de la MONUSCO et réaccepter le budget destiné à cette fin dans le social de la population.
Professeur Félicien Kabamba.
La République démocratique du Congo est un pays pauvre. Il est d'ailleurs appelé pays pauvre très endetté, qu'il a été
pays fragile.
Pays fragile et donc on le qualifie, il y a plusieurs qualifications, c'est un trou noir, c'est ceci, c'est là. Et donc, vous avez beaucoup de concepts que les scientifiques utilisent pour qualifier la situation actuelle de l'État congolais. Et donc, vous avez là un État qui présente un tableau qui est sombre sur le plan sécuritaire, sur le plan... Et donc, qui a, de mon point de vue, qui a besoin de trouver des revenus. Des revenus, d'abord, au niveau local, au niveau national, mais aussi des revenus au niveau international.
S'il vous plaît, monsieur Mouika, laissez le professeur parler. Professeur, vous avez la parole, professeur.
Oui, et donc, c'est ainsi que le Congolais qui parle trouve que dans cette condition particulière de l'État congolais, à refuser une aide serait quand même difficilement compréhensible. Mais en fait, il faut aussi comprendre que le gouvernement congolais a eu une cohabitation très difficile avec la MONUSCO. Et apparemment, le gouvernement a tenté de mettre fin à cette cohabitation sans pouvoir y parvenir. Alors, étant donné cette cohabitation difficile qui était de temps en temps ponctuée des tensions, vous vous rappelez qu'à chaque fois que les Nations Unies sortaient des rapports sur les droits de l'homme, il y avait une réaction assez musclé du gouvernement, et donc cette cohabitation difficile, le gouvernement voudrait y mettre fin et n'a pas l'intention de donner à la MONUSCO un rôle très important, un rôle d'assurer un soutien logistique à une opération qui est une opération de souveraineté, évidemment. Donc les élections, ici dit, un acteur aussi encombrant que la MONUSCO, lui redonner cette fonction, ce rôle important en ce moment précis, serait quand même assez.
Alors, comment vous expliquez cet intérêt, n'est-ce pas, de la communauté internationale sur le processus électoral ici en RDC, hein? C'est depuis toujours que cette communauté internationale tient à s'impliquer, et là, les débats aujourd'hui, c'est que le gouvernement congolais n'avait pas cette implication, n'est-ce pas, de cette communauté internationale. Comment vous expliquez cet intérêt de la communauté internationale?
Bon, alors, vous devez aussi comprendre cela dans toute cette dynamique de pression exercée par la communauté internationale pour que les élections se tiennent depuis 2016. Et ces pressions se sont également exprimées par plusieurs sanctions qui ont frappé plusieurs membres du régime, ce qui fait que le régime se trouve un tout petit peu à la défensive. Et donc, devant cette défensive, il y a une manifestation, si vous voulez, d'un souverainisme qui est très fort pour dire « Nous, Congolais, nous pouvons organiser ces élections nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de votre appui. Et de toutes les façons, nous allons les organiser sans avoir un seul rond de votre part. »
Oui, on va conclure. Et vous pensez qu'après cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, les lignes pourraient bouger en ce qui concerne les processus électoraux en RDC?
Alors, difficile pour moi de les dire, parce que je ne semble pas voir ces lignes bouger. Le gouvernement reste ferme, qu'il va financer lui-même les élections, qu'il n'a pas besoin d'un soutien ni de la MONUSCO, ni des pays de la communauté internationale. Et donc, le gouvernement s'est dit, lui seul, il est à mesure de relever les défis.
Merci, Gilbert Mouika. Votre conclusion?
Oui, je crois que tout ce que le professeur dit, ne le dit pas à ses étudiants. Parce que la cohabitation est difficile avec la MONUSCO, je ne pense pas. Ici, c'est plutôt la communauté internationale qui cherche à aider le Congo sous la logistique électorale. Et le Congo dit, nous avons suffisamment d'argent, nous ne voulons pas de cette aide-là, pour des raisons de souveraineté également. Machine à voter, il faut noter que c'est une invention congolaise d'abord. Et c'était pour des besoins économiques, étant donné que les chiffres des élections étaient mirobolants, il fallait réduire. Je ne veux pas revenir sur ça, ça tout le monde le connaît. 10 millions d'effectifs, il ne s'agit pas d'effectifs. Il s'agit plutôt de 16,6% d'enrôlés sans empreinte digitale. C'est une catégorie de Congolais. Christian, on peut Mando, le vérifier avec des photos Mando, à la rue, et ils ont participé au vote.
Votre conclusion, Christian Mando. Ma conclusion, tout simplement, nous voulons des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Parce que c'est l'inclusivité, la transparence qui va faire accepter les résultats de ces élections.
Merci.
Sans inclusivité, sans transparence, les résultats seront rejeté par une partie des participants. Et merci. Ça risque de conduire au chaos, à la violence et à une guerre civile après les élections.
Merci. Terminons cette émission avec cette réaction du ministre Gaston Moussemena. Il affirme n'avoir jamais ni sollicité ni obtenu une autre nationalité en dehors de sa nationalité congolaise. Il précise qu'il est aussi candidat à la députation nationale et provinciale à Ubundu et n'a jamais été invalidé par la CENI. Le ministre Moussemena, qui nous a appelé ce jeudi, affirme réagir aux propos du porte-parole du MLC Jean-Jacques Jacques Mamba, qui est intervenu dans l'émission Dialogue entre Congolais de lundi dernier, où il parlait de la question, en parlant de la question de nationalité, a cité le nom du ministre Gaston Moussemena comme ayant une double nationalité. Et merci, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Merci à Alain Goy qui était à la technique, à Alain Irungo qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci, bonne suite au programme sur Radio 4.